Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc j'ai une parole d'exhortation ce matin de la part du Seigneur. C'est le fruit de certaines lectures de ces dernières semaines. En fait, c'est une parole de rentrée. C'est pas à propos avec la rentrée de Jésus. Jésus fait sa rentrée avec nous dès maintenant. Et on ne parle plus donc de Sarkozy ou de tous ses ministres. C'est la rentrée de Jésus qui est la plus importante. Donc j'ai des conseils à vous remettre par rapport avec une rentrée hard, du hard. Il peut y avoir du soft, mais il y a aussi du hard chez Jésus. Parce que Jésus ne mâche pas ses paroles. Il parle des fois avec toute une sévérité. Il a à cœur de nous déranger et de nous interpeller dans les choses les plus détaillées de notre vie. Voilà un peu quand même ce que je veux vous dire ce matin. Et je commence avec ce que nous venons de fêter ensemble. Ce Jésus qui se dit le pain de vie. Et je vous propose un texte. C'est en Jean chapitre 6, un premier texte de lancement par rapport avec une de ces paroles. J'ai inversé un peu l'ordre de mes notes, donc j'ai eu du mal à me retrouver, mais je sais que quelque part j'avais noté la référence. Chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. De quoi s'agit-il? Non, mais écoutez, je pense qu'il y en a qui ont quand même censuré ces mots comme étant trop exagérés, comme frôlant quelque part le cannibalisme. Parce que Jésus se propose de se faire manger, de se faire bouffer, entre guillemets, par nous, par ses disciples. Et il y a eu des extrêmes de doctrine qui ont été quand même montés sur ce genre de texte. Mais Jésus est plutôt en train de nous dire que cette rentrée, c'est une histoire de menu. Parce que je sais que c'est un moment quand même nouveau dans nos vies, lorsque nous voulons rentrer dans les choses qui vont nous décoiffer peut-être, qui vont nous faire nous orienter d'une autre manière. Et c'est le cas avec la rentrée de Jésus. Il nous propose de changer de régime. Il nous propose de changer de régime et de mettre en place un régime par lequel nous nous nourrissons sur autre chose que sur tout ce qui est ordinaire, tout ce qui passe par les médias, tout ce qui vient du monde autour de nous. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que moi j'ai un appétit. Mais voilà la preuve, hein. Un grand appétit. Et surtout un appétit au niveau de mon esprit, par rapport avec tout ce qui se passe autour de moi. On capte des informations à gogo toute la journée. Vous savez, à l'époque, on avait CNN à la maison parce qu'on était branché sur une satellite, je ne sais pas quoi. Et puis CNN, à l'époque, je pense que c'est beaucoup plus large maintenant parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui font les mêmes choses. On peut avoir des actualités sans fin, sans arrêt toute la journée. Et vous savez, pour moi, c'était un piège. Vous savez, lorsqu'il y avait des drames qui se passaient, des incendies, je pense à le 11 septembre 2001, d'un seul coup, on était branchés là-dessus, et ça remplissait notre tête. Comme quoi, un tel drame d'ordre planétaire devait quand même être assimilé. Mais non, si. Je ne suis pas contre quand même ce genre de choses, mais Jésus nous propose plutôt de nous orienter vers une autre manière de nous nourrir. Il nous dit, il faut que vous vous nourrissiez de moi. Ben oui, parce qu'il dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, à la vie éternelle, et que je le ressusciterai au dernier jour. Ah, comme quoi, en sachant quand même imbiber, en sachant se fortifier avec la personne de Jésus-Christ, mort, ressuscité et régnant dans ma vie, je peux avoir une nourriture qui est d'ordre éternel et qui me donne la possibilité de ne pas aller au lit à la fin de cette journée-là, tranquille, mais même arriver à la fin de ma vie et trouver qu'il y a un grand passage à travers la mort qui m'amène la vie éternelle. Et la bonne nouvelle, c'est que la vie éternelle commence aujourd'hui avec cette communauté, cette dépendance de Jésus. Pourquoi est-ce que je peux insister sur cette interprétation? Parce que je suis en train légèrement de m'écarter un peu de tout ce qui est pain et vin, comme nous venons de le faire. C'est important, la scène. Mais c'est parce que dans le contexte, Jésus venait de faire un miracle de multiplication des pains. Vous savez, les 5 pains et les 2 poissons. C'est au début du même chapitre. Et il voulait se servir de ces miracles d'ordre matériel pour en tirer une leçon d'ordre spirituel. De la même manière où il a su donner à manger à toute cette foule. Et une foule, après 3 jours de faim, qui était affamée et puis donc rassasiée à fond, de la même manière, il nous propose, avec notre faim spirituelle, de venir à lui et de se nourrir de lui. Donc pour moi, ce n'est pas une simple question de se retrouver là dimanche matin au culte, si c'est important, tous ensemble, n'est-ce pas, de se nourrir avec ce souvenir béni de la mort de Jésus-Christ et du fait qu'il est vivant. Mais il faut se nourrir sur lui tous les jours. Amen. La vie quotidienne, la vie de jour en jour, se maintient par une dépendance de Jésus. Vous savez, Elisabeth a parlé de la fête des tabernacles tout à l'heure. La fête des tabernacles se situe dans le contexte de la traversée du désert par le peuple de Dieu. Amen. C'est une manière de mémoriser ces 40 ans de précarité, de difficultés, d'épreuves énormes, où ils devaient dépendre entièrement de Dieu. Ça fait beaucoup, hein, 40 ans de dépendance de Dieu, avec tout ce que ça implique par rapport avec la confiance. Vous savez, ils ne sont pas tous montrés fidèles jusqu'à la fin. Hein. La plupart, ils ont laissé le pot dans le désert. Mais il y a des déserts aussi dans nos vies aujourd'hui. Et des fois, le Seigneur nous invite à nous retrouver dans des situations désertiques où on semble être loin quand même de sa présence, où on se demande, mais où est-il? Je pensais être abonné à cette foi évangélique et je ne vois plus Jésus dans ma vie. Je ne sais pas si cela vous arrive. Et de la même manière, il nous demande de revenir et redémarrer cette fête, c'est-à-dire retrouver la présence de Jésus dans notre vie, de vivre une intimité avec le Maître. N'a rien de plus beau, n'est-ce pas? Je ne sais pas, moi je peux vous le dire, hein, je pense que vous aussi c'est pareil. C'est très fort et c'est foncièrement quand même distinguable, c'est le mot. On peut distinguer, on peut différencier ces moments quand même où on fait un rite évangélique chrétien, n'est-ce pas? Il faut lire sa Bible, il faut prier parce que tout le monde le dise. Et puis le moment où finalement Jésus revient et le Saint-Esprit est là. Et on est tellement content parce que tout ce qu'on faisait avant, oui, c'était peut-être justement un rite. Parce qu'on a l'habitude. Bon, j'espère que vous avez de bonnes habitudes. Mais même les bonnes habitudes ne suffisent pas parce que c'est Jésus qui décide le moment même où il veut envahir notre vie de nouveau et nous éclairer avec cette présence glorieuse. C'est pas des réunions entre nous, entre frères et sœurs qui sont les plus importantes. Si, elles sont importantes, ces réunions. Mais elle ne peut pas vraiment être réussie si chacun, individuellement, n'arrive pas à se nourrir sur la chair et le sang de Jésus. De vivre cette présence même, presque incarnée, presque tangible, assoutisse le sens de pardon et de repentance. Amen. Allez, premier numéro 1, par rapport avec la rentrée de Jésus, un nouveau menu, un nouvel régime. D'accord? Vous êtes d'accord? On y va là? Donc, je pense qu'il faut des choses à mettre en place, là, une nouvelle discipline à établir dans nos vies, surtout pour moi. Moins de journaux télévisés, hein, moins d'Internet, moins de je ne sais pas quoi, et plus de Jésus. Plus de Jésus. Non, il faut aller au boulot, hein, il faut aller travailler, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais quelque part, dans toutes ces heures, parce que vous faites combien? 8 heures par jour? Bon, il reste quand même, 24 moins 8, ça fait 10, 16, non? 16, il reste 16 heures. Combien de 16 heures est-ce que je suis prête à consacrer Jésus? Non, mais je ne veux pas vous dire trop d'aveux personnels, mais lorsque j'entends parler donc, de ces grands hommes de Dieu qui prient pendant 2, 3, 4 heures par jour, j'en ai lu quelque part hier, quelqu'un qui se mettait à se nourrir par la présence de Jésus, et il n'arrive plus à compter les heures, parce qu'il n'y a pas d'heure avec Jésus. Il a tellement envie d'avoir notre présence et cette possibilité de communier avec toi et avec moi, que finalement, il est en attente 24 heures sur 24 pour que nous puissions lui donner du temps. Amen. Donc, je vous dis les choses que vous connaissez, bien sûr, mais je ne sais pas pour vous, moi, j'ai du mal à le mettre en pratique. Mais je sais que c'est la clé. C'est la clé, hein, de quelque part manger ou de se nourrir avec cette présence glorieuse de Jésus. Amen. C'était sévère? Si, quelque part, parce que ça doit nous entraîner dans une nouvelle discipline. Une nouvelle discipline. Deuxième chose, Luc chapitre 14, verset 26. Luc 14, 26. Vous savez, Jésus aime toucher les points les plus poignants, les plus sensibles de nos vies. C'est là où il nous dérange. Vous savez, lorsqu'on est chrétien, il faut s'attendre à des surprises. Il faut s'attendre à vivre même des changements radicaux, même des tremblements de terre. C'est quand même le Dieu qui a fait la terre et les cieux. Et il a vraiment envie à ce que ça bouge dans chacun de nos vies. Donc, cette parole parle justement de la famille. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. C'est clair? Tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu ne haïs pas toutes ces personnes. Mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Jésus, à travers cela? Bon, écoutez, à ce moment-là, il faut faire le recul et se poser la question de quoi s'agit-il. Parce que ce texte-là va en opposition directe à beaucoup d'autres textes où nous sommes quand même exhortés de prendre charge de notre famille. Il y a un texte quelque part qui dit une personne qui ne pourvoit pas à ses parents, c'est pire qu'un infidèle. Parce que Dieu veut qu'on soit engagé par rapport avec nos familles. Donc, quel est le sens? Il y a des textes aussi qui disent honorez vos parents, c'est un commandement, une des 10 commandements. Honorez vos parents, honorez vos parents, dit l'Éternel. Si j'ai retrouvé cet autre texte que j'aimais aussi. Si quelqu'un ne pourvoit pas à ses parents, aux besoins de ses parents, il a renié la foi. 1 Timothée 5, verset 8. Vous savez, il y a une petite récit, une discussion assez farouche dans l'Évangile entre Jésus-Christ et les pharisiens. Et les pharisiens posent la question par rapport à la tradition juive qui pratiquait. Comme quoi, si vous avez consacré un don à Dieu, et d'un seul coup vous trouvez votre famille en difficulté, vous n'avez pas le droit de changer, de mettre ce don au profit, à bénéfice de votre famille, puisque vous l'avez déjà consacré à Dieu, il faut que ça reste là. Et Jésus a dit, il n'était pas d'accord. Il n'était pas raccord. Tellement la famille était importante pour lui que même si, dans notre échange juif, il y a cette dent qui est mise à part pour bénir la famille, plutôt pour la gloire de Dieu, il fallait savoir aussi le mettre de l'autre côté pour la famille. Vous savez, il y a des dangers qui rôdent au sein de nos familles, et je crois que c'est pour cela que Jésus il nous apporte cette parole. Et il y en a qui aiment la famille tellement, d'une manière tellement forte. La famille, c'est comme une extension de leur propre personnalité. Ils n'ont pas compris la différence entre aimer soi-même et aimer sa famille. Il faut aimer soi-même, aimer son prochain comme soi-même. C'est encore un autre texte qui est en opposition à ce que Jésus semble dire ici. Il y en a qui se trouvent au sein de la famille et finalement ils s'en servent un peu pour dominer, pour contrôler. Ce sont des rapports négatifs. Et la personne elle-même est en train de bouffer tous ces rapports humains autour d'elle. C'est pas ça dont Jésus parle, mais il était au courant de cette tendance dans la famille. Mais l'appel révolutionnaire de Jésus, c'est plutôt ceci. C'est lorsqu'il y a un choix entre lui et la famille, il nous demande, et ce n'est pas le mot haïr dans l'original, dans le sens hébreu ou grec du terme, c'est plutôt le sens hébreu parce que le même pensée se trouve dans l'Ancien Testament. L'idée derrière, c'est le fait d'aimer moins. D'aimer moins. Donc, c'est une histoire de comparaison. C'est une histoire d'une c'est un terme genre hyperbolique. C'est-à-dire, Jésus est en train d'exagérer un fait pour en tirer une vérité qui est quand même éclairée par cette exagération. Il est en train de dire ceci. Nous avons tous nos familles. Mais finalement, il y a quelqu'un d'autre qui est plus important que nos familles, et c'est lui. C'est quelqu'un à qui nous devons apporter et accorder le principal amour, le principal engagement. C'est pas Jésus qui est en train de dire non. Je suis contre dans votre vie de famille, contre tous ces rapports sous lesquels nous dépendons, desquels nous dépendons, parce que c'est tellement important de revivre ce contexte familial. Ça nous apporte tellement de sécurité, tellement de bienfaisance. Mais Jésus veut être placé au-dessus de cet engagement familial. Et s'il parle ainsi, c'est parce qu'il sait qu'il peut avoir des tendances dans notre vie de tous les jours. Parce qu'on a du mal à gérer tout cela. De des fois mettre la famille avant Jésus. De placer cet engagement envers la famille au-dessus de notre engagement à Dieu. Et là, ça peut être fatal. Parce que des fois, on se laisse entraîner. Ça, il y a toutes sortes de demandes, d'exigences. C'est tout à fait normal et naturel au sein de notre famille. Mais Jésus réclame une première obéissance par rapport avec notre relation avec lui. Nous devons nous soumettre à lui en premier et à notre famille en deuxième. Amen. Vous savez, je lisais ce bouquin ces derniers temps, ça m'a apporté, je pense que j'ai déjà fait mention à cela. C'est en anglais. Fight like a man. Combat comme un homme. Combattez comme un homme. C'est un appel à nous les hommes de vraiment trouver notre manière de vivre notre vie de couple, notre vie de famille. Et je pense que c'est important. Ça m'a apporté beaucoup. Une chose que ce livre m'a apporté, c'est le fait que mon épouse, elle est là. Et vous, les hommes mariés, vous avez tous des épouses. Une épouse à chacun, j'espère. Vous savez, votre épouse, je parle aux hommes, aux frères, c'est votre partenaire privilégier le meilleur. C'est quelqu'un qui s'est engagé à vivre avec vous dans toute votre faiblesse, malgré toutes vos blessures, malgré tout ce que nous portons en nous les hommes qui a été cassé dans le passé. Nos femmes sont là pour nous apporter une véritable fidélité. Et vous savez, dans la mesure où nous les hommes nous sommes prêts à partager avec nos épouses ce que nous avons de brisé en nous, ce qui ne va pas en nous, nos cris de cœur, nos désirs de changer. Nos femmes sont là pour devenir des personnes amenées par Dieu, pour nous apporter cette écoute, ce désir d'épanouissement que nous trouvons dans le couple. Ça, c'est une parole qui m'a fait beaucoup de bien, je vous le transmets comme ça. Parce que Dieu veut travailler dans nos couples, dans nos familles, d'une manière beaucoup plus révolutionnaire. Amen. Je vous livre ce témoignage, il est récent, parce qu'il s'est passé chez nous dimanche passé. Vous savez, on était en petite communauté anglo-écossaise. Donc il y avait la famille qui était de passage, donc anglophone si vous voulez. Donc on est resté sur place, on a fait notre petit culte. Donc ça faisait Elisabeth, moi-même, et ça, on était à cinq. Hein. Ma sœur, beau-frère et le neveu, Marc. Le neveu qui a à peu près 32-33 ans, n'est-ce pas? Et puis on a commencé à partager, à prier, n'est-ce pas, d'une manière tout à fait naturelle. Et puis à un moment donné, Marc, ce neveu, c'est quelqu'un qui est handicapé. Il est handicapé, il a dû avoir un accident à naissance et il n'a pas su réussir au niveau de sa scolarité. Il a toujours des petits problèmes, peut-être pas pour parler mais pour écrire, hein. Mais depuis plusieurs années, il a appris comment jouer de la guitare, comment mener la louange, comment prêcher à l'église. C'est quelqu'un qui a su compenser quelque part pour tout ce qui lui manque sur le plan intellectuel, pour retrouver un épanouissement spirituel en tant qu'enfant de Dieu. Donc il était chez nous, et puis à un moment donné, il a commencé de prophétiser. Il a prophétisé sur moi, sur Elisabeth, sur ses parents. Un jeune homme handicapé selon le monde, mais pas devant Dieu. Il a prophétisé avec tellement de puissance. Je suis encore ému. Que je me disais, je le dis à Elisabeth après, c'est quand même extraordinaire. Quelqu'un qui a vu un désert toute sa vie, ce sens de rejet, du mal à décrocher un boulot. Heureusement, il en a là depuis quelques mois, chez Peugeot là à Glasgow. Merci pour Peugeot. Hein. Mais en fait, là, et d'un seul coup, il y avait un ancien qui est venu sur lui lors de ce partage. Et au lieu d'appeler ses parents, maman et papa, il disait Anita, c'est le nom de ma soeur, sa maman. Et il a prophétisé sur elle. Anita, il a prophétisé sur son papa. Angus, il dit, je ne t'appelle plus Angus. Je ne t'appelle plus papa, Angus. Et c'était des paroles vraiment de Dieu. C'est quelqu'un qui a su apprendre à prier 2, 3, 4 heures par jour. Il est parti au Canada l'année passée et puis il a fait une école biblique. On tremblait parce qu'on se disait, est-ce qu'il va pouvoir y arriver avec tous ces problèmes? Il est arrivé tellement, il a décroché un diplôme, que des étudiants lui écrivent et lui envoient des courriers maintenant, comme quoi il le manque tellement, parce qu'il était tellement un modèle d'engagement pour le Seigneur. Amen. Je constate que dans cette famille-là, donc c'est la famille de ma sœur, ils ont su mettre en place une espèce de partage entre parents et enfants, qui était quand même dans le cœur de Jésus-Christ lorsqu'il a dit ceci. Je viens de le lire qu'il faut, s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Mais si nous arrivons à mettre Jésus en premier dans notre famille, qu'est-ce que ça donnera comme changement de dimension de vécu? Moi, j'y pense pour ma famille à moi. J'aime bien vivre les mêmes choses, que mes enfants prophétisent pour moi, que mes petits-enfants prient pour nous. Pourquoi pas? Je pense que ça, c'est la volonté de Dieu. Une fois que Jésus a la première place dans nos familles. Amen. On termine là avec une autre parole de Jésus. Luc chapitre 9. 23 et 24, vous le connaissez bien, et on retrouve plus ou moins l'écho de ce que vient de lire. Luc 9, 23 et 24. Si quelqu'un Puis il dit à tous, donc Jésus, si quelqu'un ne veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudrait sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Amen. Renoncer à soi-même et prendre sa croix. Attention, ce n'est pas une question de prendre la croix de Jésus. Jésus l'a pris pour nous, sa croix à lui. Il n'y a personne qui peut rentrer dans cette œuvre de Jésus. C'était une croix qui était unique. Et ce n'est pas non plus cette croix qu'il faut prendre. Une histoire d'épreuve, de maladie. Vous savez, lorsque ça ne va pas dans la famille, il y en a qui disent, on l'entend beaucoup autour de nous, hein, « Ah, je porte ma croix, ma femme n'est pas chrétienne, ou mon mari n'est pas converti, et c'est une croix que je porte. » Non, c'est pas ça. C'est peut-être une irritation, ça fait mal, mais ce n'est pas une croix. Là, il s'agit d'un acte volontaire, de vouloir rentrer sur un chemin d'un disciple qui est prêt à subir donc des difficultés, des épreuves pour la cause de Jésus. C'est ça, porter sa croix. C'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est inévitable, parce qu'il s'agit d'un choix volontaire, comme j'ai dit. Si quelqu'un veut venir après moi. Donc le Seigneur nous demande, lors de cette rentrée avec Jésus, de prendre notre croix. C'est-à-dire de nous engager avec lui, de rentrer dans les choses qui sont beaucoup plus sévères et plus douloureuses qu'on n'a jamais imaginé. Je ne sais pas de quoi il s'agit. On n'est pas en train de devenir fataliste. Mais vous savez, lorsqu'il s'agit d'une vie de disciple, il s'agit aussi de quelque chose qui coûte. C'est pas à la légère on peut suivre Dieu. C'est pas d'une manière superficielle on peut vivre pour Jésus. Vous savez, je pense que vous êtes d'accord, il faut aspirer pour nous tous à vivre quelque chose de beaucoup plus radical dans ces semaines et des mois à venir. On n'est pas arrivé au bout. On n'est pas arrivé à un point de perfection où on sait gérer nos vies d'une manière parfaite. Pas du tout. Il y a toujours le meilleur. Il y a toujours un autre prix à payer avec Jésus. Parce que dans cette volonté de payer le prix, Jésus veut nous apporter des bénédictions, des cadeaux inattendus. C'est une question quand même de surprise, comme je disais. Vous savez, si vous voulez vraiment rentrer dans ce mouvement de bénédiction, mais soyez prêts à payer le prix. Et Jésus vous dirait ce que sera le prix pour vous, pour toi et pour moi. Il y aurait des challenges nouveaux. Il y aurait des expériences qui nous déconcertent, qui nous humilient. Amen? Non, vous ne dites pas amen. Ça ne fait pas chaud au cœur. Mais au milieu de ces expériences, de ces épreuves, nous verrons la gloire de Dieu. C'est pas une histoire de notre propre gloire. Vous savez, la chair a tellement envie de se laisser afficher et de vivre quand même un épanouissement. Vous savez, c'est aussi un peu ce qui se trouve dans notre société occidentale. Cette question de se mettre en valeur, de se sentir bien dans sa peau. C'est faux. Jésus nous demande de passer par un chemin de sacrifice pour que nous puissions peut-être même laisser notre peau. Il y en a qui la laissent. Mais pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, je termine. Hein. Voilà quelques mots décoiffants de Jésus. Décoiffants. Hein. Bon, il faut les mettre à côté de tous ces autres mots. Doux, rempli d'amour. Mais c'est le même Jésus hein, qui veut nous déranger. Vous savez, à un moment donné, il parle même de violence dans l'Évangile. Mais on ne va pas en parler ce matin. Mais est-ce que vous êtes d'accord de rentrer dans cette vie de disciple? Et peut-être d'aborder, d'affronter des choses en vous-même et surtout autour de vous que vous n'avez pas encore affrontées. Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. Parce que Jésus est là. Et tous les jours, tu peux te nourrir de lui. Sa présence est tellement bienfaisante et réconfortante. Il est le Christ ressuscité, mort et ressuscité. Et il nous accompagne. Amen. Prions. Merci Seigneur. Seigneur, merci parce que lorsque tu nous demandes de venir mourir avec toi, c'est parce que tu nous as déjà montré le chemin. Tu es mort. Et Seigneur, en crucifiant cette chair, ou en nous laissant crucifier avec toi, par rapport avec la chair, tu nous ressuscites à une autre forme de vie, sur un autre chemin de bénédiction, de victoire. Seigneur, je prie ça sur tous mes frères et sœurs, sur nos familles respectives. Là, Seigneur, surtout où il y a peut-être donc une ou deux personnes seules qui te connaissent dans une famille. Seigneur, que ces personnes-là soient tellement imprégnées par la vie de Jésus, que les autres personnes soient quelque part atteintes par la grâce de Dieu. Seigneur, tu sais comment toucher ceux dans notre entourage à travers nous, une fois nous sommes touchés. Seigneur, viens nous toucher maintenant. Viens nous mettre, Seigneur, devant ces paroles qu'on préfère plutôt éviter, Seigneur, parce qu'elles sont tellement sévères. Mais tu nous appelles à la sévérité et à la discipline parce que tu connais notre tendance, Seigneur, de choisir du soft, à la paresse, à l'oisivité. Seigneur, nous renonçons à tout cela et nous rentrons maintenant dans ton chemin d'amour et de discipline renouvelée. Merci pour tes paroles. Amen. Amen.